Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi, animé par l'équipe de la Fondation Copernic, comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Avec pour présenter cette émission Damien et Laurent et l'équipe de Mode d'emploi à la technique. L'émission de ce soir est consacrée à la COP21 et à son bilan, donc les enseignements que l'on peut tirer de l'événement qui s'est tenu à Paris le mois dernier. Donc un mois est passé depuis cet accord et l'actualité et les médias sont passés à autre chose et nous ne parlons plus guère de l'accord sur le climat. Il nous reste en tête cependant des images, notamment cette mobilisation citoyenne malgré un contexte difficile d'état d'urgence. On a aussi en tête ce sprint final pour conclure l'accord et puis ce discours et l'émotion du président de la COP, monsieur Laurent Fabius, lors du discours de clôture qui annonçait l'accord. Donc derrière ce discours de Laurent Fabius qui parlait d'un succès historique, il nous paraît quand même nécessaire de décrypter l'accord dont aujourd'hui on ne peut se satisfaire. Donc pour en discuter, nous avons ce soir donc normalement deux invités. Donc Maxime Combe d'Attac qui doit nous rejoindre au téléphone. Maxime aura l'occasion de se présenter. Donc il est économiste, il est engagé depuis la fin des années 90 dans le mouvement altermondialiste via Attac France notamment. Et donc il contribue aussi au site d'information bastamag.net. Il a publié plusieurs ouvrages sur le sujet, dont Manifeste pour la transition aux éditions Seuil et Anthropocène. Il est le co-auteur de La nature n'a pas de prix pour Attac et Les naufragés du libre-échange de l'OMC à TAFTA. Et puis un ouvrage Crime climatique stop aux éditions Seuil Anthropocène en 2015, et puis Le climat est notre affaire également. Nous avons également avec nous en studio Olivier Roussel, donc qui a participé à l'organisation de la COI, donc la Conference of Youth, conférence des jeunes qui s'est tenue juste avant le sommet donc officiel de la COP et qui est aussi bénévole pour le collectif Alternativa et puis journaliste occasionnel à notreplanète.info. Donc si vous voulez intervenir dans l'émission, vous pouvez appeler au 01 40 05 06 10 et puis vous pourrez retrouver l'émission comme toutes les précédentes sur le site internet de la Fondation Copernic, www.fondation-copernic.org, et puis l'émission sera rediffusée mercredi prochain à 7h sur Fréquence Paris Pluriel au 106.3.
Oui, donc bonsoir à toutes et tous. Donc on attend toujours patiemment le coup de téléphone de Maxime. Du coup, en attendant, Olivier, on va commencer par toi. Peut-être déjà dans un premier temps pour poser un peu le sujet, nous rappeler un peu l'historique de ton engagement, pardon, et peut-être aussi nous expliquer un peu ce qu'est la COI rapidement.
Voilà, donc bonjour à tous. Donc moi, je suis depuis septembre engagé un peu dans les mobilisations citoyennes, sur Paris. Il est vrai que en amont de la COP, il y a eu énormément de mobilisations citoyennes, que ce soit par la coalition Climat 21, que ce soit la COI. La COI, j'étais dans cette organisation, c'était la Conference of Youth. Donc en fait, le but c'était de porter la voix de la jeunesse dans le cadre des négociations climatiques. Il y avait énormément d'autres mouvements en amont de la COP. Il y avait notamment également Alternativa, qui est un mouvement sur tous les deux, énormément de thématiques. Donc ce qui était vraiment en fait intéressant, c'était que ça a vraiment rassemblé énormément de monde. C'est mon opinion. Et cette année, contrairement aux dernières COP, le message de la société civile, c'était vraiment de vouloir porter des solutions, en fait. C'est pas uniquement de montrer au gouvernement qu'il faut se bouger et tout ça, mais c'était vraiment proposer des solutions concrètes. C'est ce qu'on a vu dans les différents événements, et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Voilà, mais c'est ce que je peux dire, et c'est ça qui m'a poussé à m'engager, du coup.
D'accord. Voilà. Et la COI, elle a duré combien de temps? Ça s'est passé comment?
Alors, du coup, la COI, ça a duré 3 jours, du 26 au 28 novembre, donc juste avant les négociations. Ça s'est passé à Villepinte, au nord-est de Paris.
C'était une volonté d'être en amont de la COP.
Ouais, c'était exactement ça, d'être juste avant. Chaque année, c'est la même chose, en fait. L'accueil, en fait, l'objectif, c'est vraiment porter la voix de la jeunesse, donc c'est juste avant la COP. Et donc cette année, c'était encore plus gros que les autres années, parce que ça rassemblait environ 5000 jeunes, donc sur Paris, de 55 nationalités différentes. Donc c'était très très gros. Il y a eu parallèlement aussi des COI locales qui sont organisées un peu partout dans le monde pour vraiment donner une dimension internationale à cet événement. Et c'est ça qui était vraiment intéressant.
Alors on nous fait signe en régie que Maxime nous a rejoint par téléphone. Bonjour Maxime.
Bonsoir.
Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à notre sollicitation. Alors, on t'a brièvement présenté tout à l'heure en tant qu'économiste et membre engagé d'ATTAC depuis plusieurs années maintenant. Peut-être que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs.
Ben non, mais ça c'est très bien.
Alors, c'est très bien.
Je suis engagé dans le mouvement altermondialiste depuis la fin des années 90 et depuis le milieu des années 2000 dans le suivi plus ou moins régulier depuis Copenhague de manière très régulière des négociations sur le réchauffement climatique et des mobilisations pour le climat, pour la justice climatique, contre l'extractivisme, pour la transition, qui se sont construites autour, en parallèle, en opposition aux conférences de l'ONU sur le climat.
D'accord. Donc on a avec nous aussi donc Olivier Roussel qui vient de nous raconter un peu comment ça s'est passé pour lui à la COI, puisqu'il a participé à son organisation, et on aura l'occasion de revenir un peu sur ce qui s'est dit sur place. Toi, Maxime, comment est-ce que tu as participé ou vécu cette COP?
Étrangement, vu la situation,
oui.
Pour préciser, donc moi je suis un des initiateurs de fait de la coalition Climat 21, cette coalition qui regroupait 130 organisations en France et donc l'ensemble des ONG allant du WWF aux Amis de la Terre, l'ensemble des syndicats, l'ensemble des organisations, des mouvements sociaux qui avaient décidé de se mobiliser pour avant, pendant et après la COP 21. Et du coup, donc à ce titre-là, étant très impliqué dans tout ce qui a été la préparation de ces mobilisations et notamment la façon dont on a essayé d'organiser ce qu'on a appelé, ce qui s'appelle la chorégraphie des différentes actions, les différentes manifestations de rue à l'extérieur qui étaient prévues. Mmh. Et donc du coup, fortement impacté, comme tous mes petits camarades qui étaient également très impliqués par les attaques, les attentats du 13 novembre, et donc du coup dans une situation un peu ubuesque où il était finalement quasiment interdit de manifester et d'être présent dans les rues de Paris alors que le marché de Noël était autorisé, que d'autres initiatives non liées à des activités militantes l'étaient, donc du coup dans une situation où on était en rapport de force permanent avec les autorités pour tenter de maintenir des mobilisations citoyennes dans la rue. Pour une simple et bonne raison, c'est de considérer que l'accord de Paris, cet accord serait largement insuffisant au regard des exigences climatiques et qu'il n'y aurait pas de réponse adéquate à l'urgence climatique, à cet état d'urgence climatique qu'on a décrété, sans une mobilisation citoyenne extrêmement forte, déterminée, des populations, non pas simplement en parallèle de la COP 21, mais également comme un moment fondateur qui puisse permettre d'être plus mobilisé, de gagner plus de batailles, d'imposer plus d'alternatives, de transformer plus que ce qu'on était capable de le faire en 2015, de le faire en 2016 à travers ce moment fondateur qui était la COP 21. Donc c'était ça l'enjeu. Et on a fait ce qu'on a pu au regard des conditions qui étaient disponibles. Mais juste un mot pour dire que il y a quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont manifesté quatre coins de la planète le samedi 28 et dimanche 29 novembre. Et que ces manifestations, s'il y avait eu une manifestation à Paris, auraient été sans doute la plus grande journée de mobilisation pour la justice climatique jamais organisée sur la planète. Donc du coup, on a quand même, d'une certaine façon, marqué et construit les bases de ce mouvement qu'on aspire à développer. Et de la même manière, malgré des interdictions ou malgré des autorisations extrêmement tardives de la part de la préfecture de Paris et des autorités, les mobilisations du dernier jour, du 12 décembre, puisque l'objectif était d'avoir le dernier mot et de ne pas se laisser compter l'histoire officielle de la COP21 par les décideurs, a quand même réuni sans doute près de 30 000 personnes sur Paris et donc du coup montré une détermination et notamment une nouvelle génération de militants pour la justice climatique qui était prête à en découdre et être présent dans la rue pour exprimer extrêmement clairement que les résultats de la COP21 n'étaient pas à la hauteur des enjeux.
D'accord, donc ce qu'on comprend c'est que même avant la COP21, on s'attendait à potentiellement un accord au rabais et que les mouvements alternatifs ont préparé la COP dans ce sens en souhaitant défendre une position qui permette de répondre aux véritables enjeux climatiques. On avait déjà des craintes, entre guillemets, on savait un peu à quoi s'attendre, c'est ça ?
Oui, clairement, parce que premièrement, on a été vaccinés par la COP de la conférence de Copenhague, vaccinés également par 20 ans de négociations. Les négociations de l'ONU sur le réchauffement climatique datent du début des années 90, et en 25 ans de négociations, les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale ont augmenté de 60%. Donc on est un peu dans une situation où plus on négocie, finalement, plus les émissions de gaz à effet de serre augmentent. Et par ailleurs, l'ensemble des organisations, et c'était un des points d'accord au sein de la coalition Climat 21 et également avec l'ensemble de nos organisations partenaires, amis, alliés au niveau international, c'est d'être lucide sur l'état des négociations et cette lucidité imposée de ne pas s'emballer, de ne pas créer d'attentes trop importantes vis-à-vis de la COP 21 parce que nous savions que ces attentes ne seraient pas réalisées à travers ce texte en cours de négociation parce que les négociations n'ont pas commencé à Paris. Ces négociations, elles sont le fruit à minima des quatre dernières années. Elles sont, de fait, le mandat de négociation a été délivré lors de la COP qui s'est déroulée à Durban, en Afrique du Sud, en 2011, donc 4 ans avant. Et d'une certaine manière, il y a une inertie de ces négociations qui date depuis Copenhague, voire même depuis le début des années 90. Donc on n'allait pas tout chambouler pendant cette COP de Paris. Et de la même manière, on est extrêmement conscient et lucide sur la difficulté pour les mouvements citoyens, les ONG, les organisations syndicales, de transformer le contenu de ces négociations à travers des mobilisations. La mobilisation à Copenhague avait été extrêmement forte, extrêmement massive, et elle n'avait pas donné le la du résultat des négociations. Donc, ayant pris conscience de tout cela, effectivement, il y avait des attentes extrêmement limitées vis-à-vis de cette COP, et de fait, du coup, on s'est absolument jamais placé sur le registre de discussion pour savoir si la COP21 allait être un succès ou pas, un échec ou pas. Et de fait, c'est pas ça qui compte. C'est de, voilà, ici aujourd'hui, il y a un accord de Paris. Cet accord de Paris est extrêmement limité, à plein de limites.
On va y revenir.
Il faut en tenir compte pour voir comment demain on peut faire avancer cette bataille sur la justice climatique.
On entend bien l'importance de la mobilisation. Peut-être qu'on pourra y revenir de façon plus précise et voir aussi quelles sont les suites données à ces mobilisations. Peut-être on peut s'amuser à détricoter un peu cette histoire officielle. Enfin, en tout cas, l'accord de Paris, tu parles de limite à cet accord, alors que finalement, nous, on l'a vendu, enfin en tout cas dans les médias, c'est comme ça qu'on l'a perçu, comme un accord historique faisant signer 195 pays autour de la table sur le climat, donc c'était une première.
Non, c'est pas vrai.
D'accord, voilà.
Le protocole de Kyoto, qui est un traité international, a été signé par quasiment l'ensemble des pays de l'ONU, sauf 4. Ensuite, il n'a pas été ratifié par certains, dont les États-Unis. Mais l'ensemble des pays de l'ONU ont signé le protocole de Kyoto. Après, ce protocole de Kyoto prévoyait une distinction entre pays développés et pays en développement, les pays développés étant officiellement contraints à des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, et les pays en développement pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Là, la différence notable entre le protocole de Kyoto et aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'ensemble des pays ont remis ce qui s'appelle une feuille de route propre déterminée au niveau national, qui s'appelle une contribution nationale déterminée par chacun des pays, et qui est effectivement une façon différente de construire ce que va être le régime de gouvernance du climat pour les années futures, pour après l'après 2020. Là, finalement, où le protocole de Kyoto tentait de fixer un objectif global à répartir entre les pays suivant des critères, et notamment ce fameux principe de la responsabilité commune mais différenciée qui permettait de séparer des pays dits développés avec des pays en développement. Aujourd'hui, on est sur une approche complètement différente où on a demandé à l'ensemble des pays de dire ce qu'ils étaient prêts à faire, ce qu'ils voulaient faire, et donc d'avoir une démarche totalement bottom-up.
D'accord, ce problème, ouais, cette démarche, du bas, ouais, okay.
Elle est extrêmement discutable également, et on ne verra finalement que ex post, on verra en 2025, en 2030, si cette façon de procéder a été plus efficace que le protocole de Kyoto. Tous ceux qui aujourd'hui disent c'est formidable, c'est un changement de paradigme, c'est effectivement un changement de paradigme. Pour savoir si c'est formidable, c'est voir, on verra ça en 2025 ou en 2030, si ça a permis d'aller plus loin que ce qu'avait permis le protocole précédent. Et on a une forte limite là-dessus. La première de ces limites, c'est que ces contributions nationales prévoient, construisent un réchauffement climatique à minima supérieur à 3 degrés pour d'ici la fin du siècle, avec plein de limites sur la façon dont c'est calculé.
C'est-à-dire
un décalage extrêmement fort entre l'engagement qui a été pris, qui est écrit sur le papier de cet accord de Paris, qui dit que les États s'engagent à ne pas aller au-delà des 2 degrés, et voire même revenir
à 1,5
degré, et on a des contributions des États, ce qu'ils mettent en face de cet objectif-là, nous conduit à 3 degrés. Et l'objectif même de la négociation aurait été de devoir ramener ces 3 degrés à 1,5 degré ou à 2 degrés, et donc d'imposer aux États d'améliorer leur contribution nationale. Alors, et ça n'a pas été possible. C'était même pas l'objet de la négociation.
Oui, sachant, moi, je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est parce que j'aime bien. Mais l'idée, c'était aussi de dire que finalement, cet accord qui prenait effet à partir de 2020, ont laissé aussi 5 ans aux différents États pour revoir à la hausse leur engagement pour essayer d'atteindre ces fameux 2 degrés, voire ces 1,5 degrés.
Il y avait des propositions concrètes dans la discussion, dans la négociation, pour qu'effectivement les États soient amenés dès 2018 et que ce soit imposé aux États à ce qu'ils revoient à la hausse leur contribution nationale en 2018 pour tenir compte des évolutions récentes et des éléments scientifiques et de l'évolution du climat. Et ça a été refusé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir une simple discussion. Il y a en fait une conférence spéciale qui va être organisée en 2018 pour faire le bilan sur le plan scientifique et sur le bilan de l'état des émissions de gaz à effet de serre et des engagements des pays pour savoir un peu plus précisément vers où on va. Donc du coup, on a repoussé ça à 3 ans, mais il n'y a pas formellement d'obligation pour que les États viennent en 2018, revoient éventuellement leurs objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de 2019, de 2020 à la hausse, et pas plus pour qu'ils revoient leurs objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à la hausse pour la suite, l'après 2020. Donc du coup, il faut bien voir, peut-être que 2018, on va réussir, par une formidable mobilisation de la société civile, à en faire un moment important qui permettrait de construire un rapport de force sur chacun des États pour que les États viennent avec quelque chose de plus sur la table. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait en faisant cela ? On institue la procrastination au sein de l'ONU. On institue ce principe selon lequel il faut toujours repousser à demain ce qu'on ne veut pas faire aujourd'hui.
Et le problème, 2018, c'est qu'en matière
de réchauffement climatique, tout ce qu'on ne fait pas aujourd'hui ne pourra pas être rattrapé demain. Toutes les émissions de gaz à effet de serre que vous relâchez dans l'atmosphère aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, ça peut être ce aujourd'hui, ce vendredi, mais aujourd'hui, cette année 2015, aujourd'hui, ces 5 années qui nous séparent de 2020, toutes ces émissions de gaz à effet de serre que vous allez relâcher dans l'atmosphère, personne n'ira les récupérer. Et donc, en matière de réchauffement climatique, finalement, là où on pourrait supporter des taux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans nos pays de 1,5% par an, à repousser à 2020, 2025 de véritables objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, on va être, si on est sérieux en matière de climat, obligé d'être sur des taux de réduction de 4-5% par an, ce que personne ne sait faire aujourd'hui. Il faut bien comprendre que les contributions nationales des États aujourd'hui prévoient une augmentation des émissions de gaz à effet de serre mondiales d'ici à 2030. Donc on a augmenté les émissions de gaz à effet de serre de 60% entre 1990 et 2015. Et en fait, ce que fait la COP21, c'est d'entériner une augmentation des émissions de gaz à effet de serre de nouveau d'un minima 10% pour 2030.
Donc plus on se réunit, plus on émet en fait.
Bah en tout cas, c'est ce qu'on peut constater. Les données statistiques montrent ça.
Ouais. Alors Olivier Roussel, donc Olivier, tu voulais intervenir.
Ouais, Maxime, est-ce que ça aurait une solution pour que le système soit un peu plus contraignant, du coup, un peu plus de contraintes sur l'accord? Quelles solutions peuvent être trouvées, par exemple?
Non, mais après, il faut bien voir. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut avoir une analyse. On va pas rejouer la COP 21. La COP 21 est passée. Cet accord de Paris, il est là pour des années et personne ne va le modifier. Personne ne va le modifier parce qu'il n'y aura pas d'opportunité de nouvelles négociations sur le contenu de cet accord de Paris. Donc on peut envisager tout plein de choses, mais il faut voir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Cet accord de Paris, il est là pour longtemps. Il faut en saisir toutes les limites. Parce que si on n'est pas lucide sur les limites de cet accord, on va avoir une difficulté à déterminer notre propre stratégie d'action, nos propres actions, ce que ça implique et tout ça. Et une des implications majeures de ce que j'ai dit précédemment, c'est que à partir du moment où on change de registre de négociation et où ce sont les États qui viennent avec leurs propres propositions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, avec ses contributions nationales.
De les fait, indices, c'est
voilà,
ça.
Voilà, on renvoie à l'échelle de chaque État la bataille du climat. C'est-à-dire qu'on est en train de fait, cet accord de Paris peut avoir un aspect positif dans le fait qu'il reterritorialise les enjeux climatiques. C'est-à-dire, de fait, une des batailles aujourd'hui, c'est de pousser la France, c'est de pousser l'Union européenne à revoir sa contribution de manière beaucoup plus ambitieuse.
Oui, on peut faire pression sur chacun des membres, là où avant, on pouvait faire pression que sur le système central.
D'une certaine manière, on peut en tout cas faire une lecture de ce type de l'accord et de la nouvelle façon qui a été de négocier et d'aboutir avec ses contributions nationales. Et donc, du coup, un des enjeux, par exemple, sur les 3 prochaines années, pour cette fameuse date de 2018, avec cette conférence qui fera le bilan sur un peu tout, eh bien, c'est de construire des mobilisations citoyennes dans chacun des États. Et mobilisation citoyenne, ça peut être extrêmement large. C'est pas simplement des manifestations. C'est les gens qui inventent des alternatives. C'est les gens qui bloquent des projets. C'est les gens qui, dans le milieu de la recherche, font pression d'une manière ou d'une autre avec des productions scientifiques ou autres. C'est-à-dire, mobilisation citoyenne, pour moi, c'est la mobilisation de la société, cette capacité que la société peut avoir à être acteur de son propre changement. Et donc, on a cette possibilité de construire ces mobilisations à l'échelle de chacun des pays pour tenter qu'à l'échelle globale, on ait une répercussion de ces mobilisations nationales sur les objectifs que chacun des pays va mettre au pot commun.
D'accord.
Donc ça, c'est une des possibilités. Sur le caractère contraignant, c'est une vaste question. C'est une vaste question et c'est une question, par contre, très intéressante, mais qui renvoie finalement à l'architecture globale de la façon dont est organisé le monde et organisé les différentes institutions internationales, les différentes règles qui régissent l'économie mondiale.
Alors on va y revenir juste après sur la géopolitique du climat et puis effectivement comment les négociations climatiques sont reliées ou non aux négociations économiques. Puis on parlera aussi des limites de l'accord. On va faire une première pause musicale dans cette émission et on se retrouve tout de suite après.
Y a mangé tout le fromage. Maître Renard n'est qu'un tocard.
Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait
Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et nous venons d'écouter Mon Côté Punk. Donc aujourd'hui, on traite un peu du sujet de la COP 21, de son bilan et des perspectives qu'on peut dresser à la fois sur le processus des négociations et puis sur les mobilisations. Alors juste avant de reprendre, on va faire un point sur l'actualité de la Fondation Copernic. Donc il vient de sortir une note sur le code du travail en sursis, avec notamment un point de vigilance sur le maintien du principe de la négociation collective, qui est une source indispensable et essentielle à la garantie du respect du droit du travail. Alors,
juste une petite parenthèse, si vous voulez avoir la version audio de la note, la dernière émission est quand même de la Fondation Copernic était sur cette note et elle est téléchargeable sur le site. Voilà, c'est les auteurs de la note étaient présents.
Voilà. Et vous pouvez la commander aux éditions Syllabs ou sur le site de la Fondation Copernic. D'autres, vous pouvez retrouver sur le site de la Fondation Copernic d'autres articles sur la réforme de la Constitution et de la procédure pénale. Et puis aussi une pétition à signer, nous ne céderons pas, toujours dans ce cadre de la réforme de la Constitution. Et puis en question d'actualité, donc la Fondation Copernic, la Fondation Gabriel Péri et l'Institut Tribune Socialiste organisent des rencontres publiques chaque mois. Et donc ce mois-ci, donc mercredi prochain, 27 janvier, à la Maison des Sciences de l'Homme à Saint-Denis, donc c'est métro Front Populaire, face au chaos du monde, quelles issues ? L'idée, c'est de discuter d'une autre politique de gauche. Et puis d'autres publications intéressantes sur le site du réseau Action Climat, avec une publication sur les témoins des changements climatiques ou sur le nucléaire, une fausse solution contre le climat. Donc on va reprendre le cours de l'émission, donc avec Maxime Combe d'Attaque et Olivier Roussel qui a participé à l'organisation de la COI. Donc on était sur les limites de l'accord. Donc on en a cité notamment la principale, hein, puisque l'accord prévoit un objectif ambitieux de 1,5 degré de maintien du réchauffement climatique à l'échelle planétaire. Mais à côté de ça, nous disait Maxime Combe, on n'a pas les engagements, les contributions nationales suffisantes. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre comme limite de cet accord ? Il y en a de nombreuses qui ont été relevées, peut-être notamment sur la place de l'énergie.
Bon, c'est simple, le mot énergie fossile n'apparaît pas de l'ensemble du texte, ce qui est un peu étrange quand on sait que 80% des émissions de gaz à effet de serre, 80% du carbone est lié à la combustion des énergies fossiles. Donc du coup, on a là un impensé total. C'est un peu comme si ces négociations et cet accord de Paris regardent ce qu'il se passe en fait en bout de cheminée, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre une fois qu'elles sont relâchées dans l'atmosphère, mais qu'on ne regardait finalement que très peu ce qu'il y a avant la cheminée, c'est-à-dire cette formidable machine économique qui réchauffe notre planète et les filières énergétiques qui l'alimentent. Et donc, du coup, de la même manière, le terme énergie renouvelable n'apparaît qu'une fois, alors au détour d'une phrase qui porte sur les seuls pays africains, et sinon, il n'y a pas, par exemple, dispositifs d'incitation à développer les énergies renouvelables qui soient mentionnées dans ce texte-là. Donc on D'accord, a effectivement ouais. une vraie œillère et qui nous amène et qui a été qui conduit à ce que ce texte-là finalement manque de jalons pour réellement penser ce qu'est la transition énergétique à l'échelle mondiale.
D'accord,
et si on revient sur la question des 2 degrés, il y avait dans le texte de négociation comme proposition le fait d'indiquer des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui étaient ceux préconisés et proposés par le GIEC, par les climatologues, donc avec des jalons de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 ou 2030 ou 2050. Et ces objectifs-là chiffrés ont été retirés du texte. Donc du coup, on n'a pas du tout de feuille de route, ni de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, ni de mise en œuvre de la transition énergétique. Et c'est un petit peu problématique, parce que du coup, le fait de poser ces chiffres, le fait de poser ces objectifs chiffrés, en plus de donner et d'éclairer la route qu'on devrait suivre, donne des objectifs extrêmement précis pour toute une série d'acteurs politiques, économiques, citoyens, qui peuvent servir de référence. Et du coup, avec ces éléments chiffrés, on pourrait comparer, par exemple, ce que racontent des acteurs tels que Total, State Oil, Shell ou les autres multinationales de l'énergie, qui disent, par exemple, qu'en termes de mix énergétique mondial, il y aura toujours 50, 60, 70% d'énergie fossile en 2030.
D'accord,
ça, c'est contradictoire avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais comme on n'a pas les chiffres dans le texte,